Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones hebdomadaire pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Au-delà des grands débats qui prennent place un peu partout au pays depuis quelques semaines déjà, quelles approches les différents partis ont-ils adoptées au nord des provinces dans le contexte des élections fédérales du 20 septembre prochain? Je suis avec ma collègue Nelly Guidici pour en parler. Nelly, d'abord, quels sont les principaux sujets qui touchent directement l'Arctique?
Alors, le réchauffement climatique est bien évidemment le premier qui nous vient à l'esprit. L'Arctique, comme on le sait, se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Et les collectivités des trois territoires font vraiment face aux effets directs sur leur environnement dû à ce réchauffement climatique, mais également sur le mode de vie de ces personnes qui vivent dans les territoires. La réconciliation, la souveraineté, l'emploi ou encore l'accès au système de santé sont aussi des sujets majeurs pour les territoires.
Si on vient sur les changements climatiques, Nelly, est-ce que les partis politiques l'appréhendent tous de la même façon?
Eh bien, pas vraiment. Alors, si les objectifs de carboneutralité et de réduction des gaz à effet de serre sont exprimés par tous les partis nationaux, le Parti vert, par exemple, souhaite annuler tous les projets de pipeline et d'exploration pétrolière. Par contre, le Parti conservateur mise plutôt sur une activité minière en proposant des formations aux Inuits afin qu'ils puissent travailler dans ce domaine finalement. Le Parti conservateur propose aussi de soutenir le programme des gardiens autochtones, tout comme le nouveau Parti démocratique. Et le Parti libéral, quant à lui, propose la création de 10 nouveaux parcs nationaux.
Et Nelly, un sujet central là, dans l'actualité des derniers mois, quelles sont les positions des partis en ce qui a trait au processus de réconciliation avec les peuples autochtones?
Alors, le nouveau Parti démocratique est le seul parti à proposer la création et la nomination d'un procureur spécial qui enquêterait de façon indépendante sur les crimes commis dans les pensionnats contre les enfants autochtones. Donc, le nouveau Parti démocratique propose aussi de financer des recherches de lieux de sépulture, tout comme le Parti conservateur et le Parti libéral.
Et finalement, Nelly, est-ce que la souveraineté de l'Arctique a été abordée par les différents partis, hein? Souveraineté de l'Arctique par rapport aux pays limitrophes, là, pour ne pas nommer la Russie, par exemple?
Alors, non, la souveraineté dans l'Arctique n'est pas vraiment abordée, excepté par les partis libéraux et conservateurs. Alors, le Parti libéral estime qu'il est important d'investir dans les forces canadiennes. Le Parti conservateur, lui, souhaite renforcer la souveraineté du Canada dans l'Arctique en augmentant notamment les effectifs de Rangers, en déployant des satellites et aussi en par la construction de deux bases navales, une sur l'île de Baffin et une autre à Churchill dans la baie d'Hudson.
Nelly Guidici, merci beaucoup pour cette vue d'ensemble des plateformes électorales dans le nord du Canada. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci Thomas.
La Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest vient de trancher en faveur du gouvernement quant à un refus d'admettre 5 élèves de familles non ayant droit aux écoles francophones. Les trois juges ont ainsi renversé la décision du juge Paul Rouleau qui avait rendu un jugement sévère à l'endroit de la décision prise par Caroline Cochrane, qui était alors ministre de l'Éducation. J'ai au bout du fil Simon Cloutier, président de la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest. Bonjour, M. Cloutier.
Bonjour.
D'abord, revenons un peu en arrière, là, question de contexte. 5 familles de parents immigrants non francophones veulent inscrire leurs enfants aux écoles francophones du territoire. Ils se butent à une décision de la ministre de l'Éducation, alors en place, qui a usé de son droit discrétionnaire pour refuser l'inscription. Ces familles ont eu gain de cause en 2020, mais voilà que les trois juges de la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest ont renversé la situation au mois d'août, là, donc très récemment. Comment est-ce que la CSFTNO accueille cette décision?
Bien, c'est sûr que nous, on est déçus. On est déçus de la décision, évidemment, parce qu'on croit que le juge Rouleau avait bien fait son travail en non seulement évaluer le droit et l'article 23, mais en allant un peu plus loin, en évaluant la cause et qu'est-ce qui était l'esprit de l'article 23, parce qu'évidemment, juste regarder les écrits versus qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces écrits, c'est quand même différent. Puis ça, c'est souvent ce qui arrive malheureusement avec la Cour d'appel. La Cour d'appel évalue pas nécessairement des cas, mais évalue surtout le droit. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent cette tendance au pays où quelqu'un va gagner en première instance, va perdre en cour d'appel. C'est souvent le cas, puis c'est le cas pour nous malheureusement cette fois-ci.
Est-ce qu'on est surpris de cette décision? Il y avait quand même un certain espoir là, que la décision du juge Rouleau soit corroborée.
Mais c'est sûr que nous, quand on a présenté à la cour d'appel nos arguments, je veux dire, on était confiant qu'on avait pu réussir à convaincre les juges. Malheureusement, comme on peut le voir, ce n'était pas le cas. Mais en même temps, c'est ça, je veux dire, il y avait quand même ce petit doute-là, là, aussitôt qu'on va en cour d'appel, là, de voir comment la cause va être entendue. Puis il y avait aussi le fait que, malgré que je ne juge pas ou je ne doute pas du tout de la capacité des juges, il reste que, malheureusement, il n'y avait pas de juge francophone disponible pour entendre la cause. Puis en quelque part, je comprends que le droit reste le droit, mais en quelque part, j'imagine que des juges francophones qui vivent en situation minoritaire ont probablement été mieux en mesure de comprendre les arguments qu'on avançait que des juges qui n'ont pas vécu cette situation-là.
La loi a changé en quelque sorte là, depuis que tout ça a d'abord été porté là, devant les tribunaux. La commission scolaire a quand même plus de pouvoir, ou corrigez-moi, là, pour accueillir les élèves de parents non ayant droit. Est-ce qu'on appréhende que cette décision change quoi que ce soit à la situation actuelle?
Bien, c'est ce qu'on est en train d'évaluer présentement suite aux décisions du juge Rouleau. Le nouveau ministre de l'Éducation avait travaillé en collaboration avec nous pour mettre en place un nouveau règlement, comme vous l'avez dit, sur les admissions, qui nous permet d'aller plus loin que la directive ministérielle précédente permettait. Ceci étant dit, c'est là où on se trouve présentement. On est en train d'évaluer toutes les possibilités, en train d'évaluer toutes nos options pour le futur, tout en continuant à collaborer avec le ministre de l'Éducation actuel pour voir quelles seront les prochaines étapes. Nous, à partir du moment où le jugement est tombé, on a 60 jours pour faire appel à la Cour suprême du Canada pour entendre la cause. Puis c'est ce qu'on est en train d'évaluer présentement. Est-ce qu'il y aurait moyen de s'entendre avec le gouvernement pour ne pas le faire? Ou est-ce que nos conseillers juridiques vont nous donner toutes les possibilités que ce jugement-là pourrait créer dans le futur pour la CSFTNO? Puis à ce moment-là, le conseil des commissaires va s'asseoir, va évaluer ça, puis va prendre la meilleure décision possible pour la CSFTNO, pour les familles, mais aussi pour la communauté francophone.
D'accord. Donc, oui, c'est une question qu'on se posait. Il n'est donc pas exclu qu'on porte l'affaire en Cour suprême, là?
Non, effectivement. C'est important de comprendre que même si la décision actuelle concerne la précédente directive ministérielle qui n'est plus en place, c'est quand même important pour nous de faire une analyse juridique de cette décision-là pour s'assurer que dans le futur, dans les prochains mois, dans les prochaines années, cette décision-là pourrait pas venir nous hanter avec un nouveau ou une nouvelle ministre ou une nouvelle approche politique au niveau du gouvernement territorial qui pourrait nous faire reculer plutôt qu'avancer dans ces dossiers-là. Puis c'est ça qu'on est en train d'évaluer présentement.
Et est-ce que cette décision a quelque impact, que ce soit sur les élèves qui sont impliqués en quelque sorte dans cette série de jugements?
Pour l'instant, non. Le ministre s'était engagé à permettre aux enfants d'aller à l'école pour des années scolaires jusqu'à temps que les procédures judiciaires soient terminées. Puis là, comme techniquement, on a encore 60 jours, on avait 60 jours pour prendre une décision, puis que ce temps-là n'est pas encore, ce moment-là n'est pas encore arrivé. Techniquement, les procédures judiciaires sont pas terminées, parce que si on déciderait, par exemple, de demander à la Cour suprême de regarder le dossier, les procédures judiciaires continueraient. Donc, le ministre s'est engagé pour cette année scolaire, à ce que les familles puissent s'inscrire de nouveau à l'école. Donc, au moment où on se parle, il y a pas d'impact là, pour les familles.
Et règle générale, question de contexte, à quoi ressemble la demande là, du côté des familles non ayant droit là, pour accéder aux écoles francophones des TNO? Est-ce que c'est croissant depuis les dernières années? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Non, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est ça le point qu'on a essayé de défendre, puis qui nous a permis, là, justement, avec le ministre, de travailler sur un nouveau règlement qui, comme on l'a dit, était un grand pas dans la bonne direction, compte tenu de ce qu'on avait précédemment, puis qu'on était heureux d'avoir réussi à travailler en collaboration, puis de bonne foi, négocier de bonne foi avec le ministre de l'Éducation, ce qui nous emmenait au règlement. Mais on l'a toujours dit, ce règlement-là est beaucoup mieux que c'était, mais c'est pas parfait. Puis un des points qui était souvent soulevé par le gouvernement, c'est qu'eux avaient peur qu'on rouvre les portes des écoles, puis que qu'on rentre des étudiants en grand nombre. Je veux dire, depuis la mise en place du règlement, les admissions d'étudiants en vertu du nouveau règlement. Donc, si on enlève, là, parce qu'il faut comprendre que dans la précédente directive ministérielle, il y avait quand même un volet réacquisition de la langue qui était déjà en place. Donc, si on enlève ces étudiants-là, puis qu'on prend les nouvelles catégories qui ont été ajoutées dans le nouveau règlement, le nombre d'étudiants qui ont été acceptés dans nos deux écoles se compte sur les doigts d'une main. Puis à la fin de la journée, quand on regarde nos chiffres cette année, la population des deux écoles est en décroissance présentement. Donc c'est important pour nous de continuer à travailler pour assurer la vitalité de nos écoles, puis en même temps la vitalité des communautés francophones là, dans les TNO.
De notre côté, on va tenter dans les prochains jours de poser nos questions au ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson. Simon Cloutier, président de la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Aux prises avec une transmission communautaire de la COVID-19, Yellowknife et Bechocon sont touchés depuis le 8 septembre par de nouveaux arrêtés de santé publique. Thomas Chabot est au micro pour faire le point sur ces nouvelles mesures imposées aux résidents. Thomas, on parle d'un certain retour en confinement, comparable, oui, à ce qui prévalait au printemps dernier.
Oui, Thomas. Tout d'abord, l'arrêté de Yellowknife incluait Bechocon jusqu'à l'émission d'un deuxième arrêté tard en soirée le 8 septembre. Et c'est important de le préciser, c'est allé très rapidement tout ça. Alors, la santé publique a pris la décision suite à l'annonce de 11 nouveaux cas confirmés ou probables à Bechocon. Et je reviendrai sur ce point dans quelques minutes. Concernant donc le premier arrêté touchant Yellowknife, Dillon et Detta, il est entré en vigueur le 8 septembre à 17h et devrait durer 2 semaines pour se terminer le 22 septembre. Cependant, en conférence de presse, la santé publique a précisé et a confirmé qu'il pouvait être prolongé. Alors, la décision d'imposer de nouvelles restrictions survient peu après l'annonce d'une éclosion de COVID-19 parmi la population mal logée et vulnérable de Yellowknife. Car depuis 3 semaines, c'est 19 personnes ayant fréquenté des refuges de la capitale et 10 travailleurs de la santé ou de soutien qui ont déclaré positif à la COVID-19. Alors, en raison de la présence de transmission communautaire dans la capitale, l'entièreté des lieux publics est désormais considérée comme étant des lieux d'exposition possible. La santé publique ne publiera donc pas de nouvelles notifications d'exposition pour Yellowknife, à moins que le lieu ne soit jugé comme étant un lieu à risque élevé.
Hey, Thomas, donc, on remet nos masques à l'intérieur, là, pour ceux qui ne le savaient pas déjà. Mais encore, comment est-ce que ces nouvelles mesures peuvent-elles affecter nos quotidiens, là, pour au moins les deux prochaines semaines?
Effectivement, c'est dur à manquer le port du masque, ça on est au courant, mais les nouvelles restrictions touchent majoritairement les rassemblements et les activités intérieures. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait l'administratrice en chef de la santé publique, Dr. Kendola, en conférence de presse, c'est que sans la mise en place des mesures de santé publique, il y a un risque important d'augmentation des cas et de surcharge du système de santé au-delà des capacités disponibles. Déjà, ils ont augmenté les lits d'intensité de 4 à 6 lits. Les ménages ne peuvent désormais accueillir que 5 invités pour un maximum de 10 personnes à l'intérieur. Dr. Kendola déconseille aussi fortement les déplacements entre Yellowknife et Bechocon et les autres collectivités des TNO. Pour les rassemblements extérieurs, ils sont désormais limités à 50 personnes avec l'obligation de respecter la distanciation physique entre les bulles. Et la distanciation est aussi requise pour les rassemblements intérieurs. La limite passe à 25 personnes à l'intérieur. Concernant le travail, ça peut changer beaucoup d'informations, ça. Le télétravail est désormais fortement encouragé pour les employés qui sont dans la possibilité de travailler à distance. Alors, les commerces et les installations essentielles doivent aussi fonctionner avec le nombre minimal d'employés requis sur place, mais peuvent accueillir plus de 25 personnes. Concernant les écoles, c'est une question qui est sur beaucoup de lèvres. Elles pourront demeurer ouvertes durant l'arrêté, mais les activités intérieures à risque élevé, telles que les sports de combat, les sports rapprochés ou demandant un effort physique intense, sont interdits à moins d'une dérogation de la santé publique. Les activités parascolaires pour les élèves de moins de 12 ans sont aussi interdites. D'ailleurs, l'Assemblée législative des TNO a aussi fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre.
Oui, les portes qui sont fermées au public, les membres de l'Assemblée vont tout de même siéger là, un peu plus tard au mois d'octobre. Thomas, est-ce qu'il y a été question des déplacements, là, des voyagements à l'extérieur du territoire et de tout le protocole là, qui entoure le retour pour les gens vaccinés, pour les gens non vaccinés?
Il n'y a aucun changement à ce sujet. Simplement, les déplacements non essentiels sont fortement déconseillés présentement entre les collectivités ténoises et en dehors du territoire, bien entendu, mais il n'y a aucun changement à la frontière.
Parfait. Et donc, vous venez de parler des nouvelles restrictions imposées à Yellowknife, Dillon et Deta, des restrictions qui sont également en vigueur à Bechocon. Toutefois, il y a un deuxième arrêté de santé publique qui est venu ajouter quelques mesures supplémentaires là, à la collectivité de Bechocon.
Oui, et c'est sorti tard, en soirée le 8 septembre. Contrairement à Yellowknife, les entreprises et les commerces non essentiels peuvent demeurer ouverts avec du personnel réduit, mais à Bechocon, non. L'arrêté exige la fermeture des entreprises non essentielles. Les écoles de Bechocon doivent aussi transitionner vers un apprentissage à distance. Et la dernière distinction touche les rassemblements intérieurs. Si à Yellowknife, il est permis de recevoir jusqu'à 5 personnes chez soi, à Bechocon, toute visite est interdite. Seuls les membres du ménage peuvent être à l'intérieur d'un ménage.
Parfait. Tiens, on salue le personnel des hôpitaux et centres de soins de santé des territoires du Nord-Ouest qui doivent être très occupés là, depuis le début de cette éclosion. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Il y a maintenant près d'un an que la municipalité de Yellowknife s'affaire à repenser son règlement de zonage, un exercice bureaucratique qui pourrait apporter des changements concrets au paysage résidentiel, commercial et agricole de la capitale. Les résidents ont désormais accès à une première mouture de cette nouvelle affectation des différents secteurs de la municipalité. Une nouvelle vague de consultation publique a été lancée dans le but de peaufiner la nouvelle réglementation qui, à terme, devra faciliter le développement des divers secteurs de la municipalité.
2021 draft zoning bylaw is less regulatory and includes fewer zones. It also increases the number of permitted uses and types of permitted uses while promoting new forms of development.
Comme l'explique Charles E. White, directrice à la planification et au développement de la municipalité de Yellowknife, cette ébauche de nouveau règlement de zonage 2021 est moins contraignante que le règlement actuel. On y compte 22 zones contre les 33 zones incluses au règlement de zonage actuel et une plus grande flexibilité quant à l'usage, c'est-à-dire les activités commerciales qui y sont permises ou encore le type d'habitation qui peuvent y être construites.
The draft zoning bylaw promotes opportunities for infill, densification, which are hopeful to support the local economy by reducing the distance between businesses and their clients to provide services and products, keeping the costs lower for everyone.
Remplir et densifier les zones de la municipalité plutôt que d'étendre le développement sur une plus grande superficie. Voilà l'un des principes qui a guidé l'administration dans la création de cette ébauche du nouveau règlement de zonage de Yellowknife. Principe qui vise notamment à améliorer l'accès des résidences aux différents services de la municipalité, mais également d'en réduire la trace carbonique en limitant les déplacements en voiture. Comme l'a souligné la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, il y a 13 ans que le règlement de zonage de la municipalité n'a pas été modifié.
From an economic development perspective, a lot's changed in Yellowknife over the past 13 years. We've seen a growth in agriculture and tourism. We've seen cannabis get legalized and much more. This bylaw takes these economic development opportunities into mind and will hopefully make it easier for future entrepreneurs to get started or for current businesses to grow.
En matière de développement économique, beaucoup de choses ont changé en 13 ans, souligne la mairesse, incluant la croissance des secteurs touristiques et agricoles ainsi que l'apparition de commerces de vente de cannabis. Bref, de nouvelles occasions d'affaires qui pourront être facilitées aux yeux de Mme Alty par ce nouveau règlement de zonage. Le nouveau document doit également favoriser l'inclusion en permettant la construction, par exemple, d'immeubles d'habitation multifamiliale, ce qui permettra notamment d'ouvrir certains secteurs de la municipalité aux familles à faible revenu. Les résidents de Yellowknife peuvent dès maintenant consulter le document sur le site web de la municipalité. Des journées portes ouvertes sont prévues les 22 et 23 octobre afin de recueillir les commentaires et suggestions des résidents. Les résultats de ces consultations publiques ainsi que les modifications qui seront apportées à cette ébauche du nouveau règlement de zonage seront présentés au conseil municipal au courant de l'automne. Alors, Kosciusko Mehto travaille à ressusciter la légendaire mine Pine Point dans le Slave Sud. Notre collègue Denis Laure a lu pour nous un roman dont l'action se situe en 1964 sur le chantier de construction de la voie ferrée qui doit se rendre à une future mine de zinc et de plomb. Bonjour, Denis.
Bonjour, Thomas.
Denis, on parle ici du livre « Train d'enfer » de Trevor Ferguson que le réalisateur québécois Louis Bélanger a adapté en 2009 sous le titre « L'heure de vérité ». Denis, quelque chose dans l'actualité justifie là, qu'on fasse état de ce roman aujourd'hui?
Pas tant que ça. Écoute, pour être honnête, Kosciusko a parti en juillet, le 13 juillet pour être plus précis, une campagne de forage assez forte. Mais c'est simplement l'intérêt d'une œuvre qui prend place au territoire du Nord-Ouest avant même que le village de Pine Point naisse et disparaisse, évidemment. Oui. Trevor Ferguson, c'est un Québécois anglophone qui est né en 47. C'est vraiment le type d'écrivain, là, pas du tout universitaire, qui a exercé 100 000 métiers pour gagner sa vie, des métiers assez durs. Ben, il a travaillé au territoire du Nord-Ouest sur la voie ferrée qui devait transporter plus tard les métaux de Pine Point jusqu'au sud. Il a fait des métiers assez difficiles sur cette voie ferrée-là. Il était entre autres cuistot. Il écrivait pendant ce temps-là. Donc, son roman a un côté réalisme social, mais avec des accents fantastiques. Le personnage principal, Martin Bishop, s'en va travailler dans le camp de la voie ferrée. Il est chargé de comptabiliser les heures des autres ouvriers. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle « The Timekeeper », et c'est un titre qui est quand même plus significatif que Train d'enfer, parce qu'il n'y a pas de train dans l'histoire, vraiment. On pose la voie ferrée. Et Bishop, donc, c'est un tout jeune homme qui a été élevé sur une ferme en Alberta par un ancien soldat. Il y a des principes moraux très, très forts, mais ces principes-là, ils vont se heurter à la réalité du camp. Le contremaître, c'est un despote, c'est un psychopathe, il est malhonnête, il est violent, il est même sadique. Et puis, en termes de malhonnêteté, donc, il demande à Bishop de marquer des heures pour des ouvriers qui sont nulle part. Lui, Bishop, il est naïf, il n'a pas d'expérience de vie, mais on voit que finalement, il tient beaucoup à ses principes, puis il est ingénieux, il est déterminé. Il va finir par découvrir c'est qui ces ouvriers-là manquants qui vivent dans le bois comme ils peuvent.
Et Denis, donc, Trevor Ferguson qui a bel et bien travaillé sur ce chemin de fer, qui a pris des notes pour écrire son roman. On parle quand même d'une fiction, là. Ce n'est pas un fait vécu du début à la fin.
Oui, c'est ça. Écoute, c'est basé sur l'expérience ou les expériences qu'a vécu Trevor Ferguson, mais bon, le reste, je suis pas mal sûr, j'espère que c'est totalement imaginaire. Métaphorique aussi, on va y revenir. Il n'y a pas de vampire, il n'y a pas de loup-garou, c'est quelque chose dans le climat qui fait que c'est fantastique. Ça transcende la représentation, si vous voulez, des rapports de force ou d'un milieu social. De tous ces hommes-là, par exemple, qui vivent dans le bois en se nourrissant dans le dépotoir, c'est quelque chose d'à peu près... c'est plutôt dans le domaine du fantastique. T'as un cuisinier qui s'appelle Prudhomme, qui est un homme énorme, qui se prend pour un prophète. Il fait toujours des déclarations mystiques, philosophiques. Quand tu lis le livre, tu sens bien qu'il y a une volonté métaphorique dans tout ça. Moi, j'ai pas réussi à décoder tous les messages qui étaient là-dedans, hormis ce qui est très clair, c'est qu'on voit que Bishop doit réussir à traverser cette espèce d'enfer-là sans devenir lui-même une partie de l'enfer, sans être, si tu veux, souillé par l'espèce de climat, puis la perversion qu'il y a là-dedans, la corruption. Malgré que j'ai pas tout compris dans le livre, j'ai vraiment apprécié beaucoup l'ambiance très forte, le climat violent, oppressant et mystérieux de ce livre-là qui se passe presque pas à Hay River, plutôt dans le camp, dans le bois, si tu veux.
Et donc, Train d'enfer, qui est paru aux éditions de La Pleine Lune, l'auteur Trevor Ferguson, considéré comme un des plus grands écrivains canadiens de sa génération. Une belle lecture d'automne, tu sais, je vais aller voir moi-même si je peux pas trouver ça chez notre libraire local de Yellowknife. Denis Laure, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.
Bienvenue, Thomas.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. D'ici là, pour ceux et celles qui ont envie de suivre la campagne électorale, je vous invite à écouter l'émission Latitude, l'émission de retour à la maison animée par mon collègue Thomas Chabot. Je vais vous présenter les 4 entrevues que j'ai pu réaliser avec les candidats actifs des territoires du Nord-Ouest. Je vous ai également préparé un condensé que vous pouvez lire dans l'édition de cette semaine du journal L'Aquilon. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local Pont Média Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info, une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.